Monsieur l'administrateur, chers amis, je suis particulièrement heureux d'introduire ce colloque Darwin et je tiens à remercier Alain Prochian d'abord de l'avoir organisé si remarquablement et également de m'avoir invité à donner ses remarques. Darwin aurait donc 200 ans aujourd'hui, mais je dois dire que sa pensée est toujours plus vivante et omniprésente que jamais. Un nouvel ancêtre de l'homme, Ardipithecus, a été même découvert cette année pour célébrer en quelque sorte cet anniversaire. Et je dois dire que les diverses communications qui seront faites à ce colloque témoignent de la vivacité de la pensée de Darwin. Je dirais même que cette réflexion de Darwin est pour nous inséparable, je dirais même, de la notion de vie. Je suis neurobiologiste et donc je limiterai mon intervention à des réflexions qui portent sur le cerveau de l'homme. Et je retiendrai tout particulièrement la notion de variation. Et comme vous le savez, Alain Prochian a produit une pièce de théâtre sur ce sujet, donc je ne vais pas reprendre sa pièce, mais peut-être déjà pour débuter, rappeler certaines phrases de l'origine des espèces. Les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais comme des variétés. Vous voyez, le mot « variété » apparaît. Elles descendent d'autres espèces. Ces considérations m'engagent à consacrer le premier chapitre de ce livre à l'étude des variations à l'état domestique et à la variabilité des espèces à l'état de nature. La lutte pour l'existence parmi les êtres organisés dans le monde entier, la sélection naturelle et toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. C'est un point important de la théorie de Darwin, essentiel même. Et en effet, la sélection naturelle conduit, écrit-il, à la divergence des caractères. Mais ce qui est important et que je retiendrai aujourd'hui dans ces réflexions introductives, c'est la variation. Et je pense qu'il s'agit d'un aspect essentiel de la pensée darwinienne, tout autant que celui de sélection, car je crois qu'on peut considérer que la variation est le moteur de l'évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Darwin s'intéresse non seulement à l'évolution, mais aussi à l'hominisation, aux origines de l'homme, et à l'humanisation, qui est un aspect qui va être central dans le débat présidera ces deux journées. Et dans la descendance de l'âme, on peut voir l'intérêt que Darwin porte sur ce qu'il appelle les facultés mentales de l'homme, qu'il compare à celles des animaux, qu'il qualifie d'inférieures, la communauté de certains instincts, émotion, curiosité, imitation, attention, mémoire, imagination, raison, instruments et armes employés par les animaux, abstraction, conscience de soi, langage, sentiment de la beauté, croyance en Dieu, aux agents spirituels, superstition. Autre faculté mentale, le sens moral, la sociabilité, je passe, et l'importance du jugement des membres d'une même communauté sur la conduite, la transmission des tendances morales. Vous voyez, la globalité de la pensée darwinienne et l'intérêt qu'il porte au cerveau de l'homme et à ses productions. Donc, mes réflexions porteront sur la variation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'évolution du cerveau. Donc, trois points simplement, la variabilité génétique, la variabilité connexionnelle et la variabilité de l'activité du cerveau. Variabilité génétique, eh bien, au cours des récentes décennies, des progrès considérables ont été faits dans la connaissance des génomes des êtres vivants. Un très grand nombre de séquences ont été établies d'une manière complète. Et voici en quelque sorte cet arbre de la vie qui est directement issu de la pensée darwinienne et qui, je dirais, la démontre. Avec ce foisonnement, cette diversification, cette arborisation des génomes tels que lui-même l'avait en quelque sorte prévu. Et à cette manière de voir cette vision arborescente et, je dirais, hiérarchique de l'évolution s'ajoute, et ça c'est une donnée récente, des échanges horizontaux, des transferts de gènes qui créent donc plus qu'un réseau arborescent, plus qu'une arborescence, un réseau d'interactions géniques. Et voilà en quelque sorte l'image originale de Darwin, de l'origine des espèces, et celle que l'on peut proposer aujourd'hui sur l'évolution des génomes dans le monde vivant. En particulier en ce qui concerne les origines de l'homme et de la famille humaine. Et comme je disais, nous avons vu cette semaine apparaître dans la presse scientifique la découverte de cet Ardipithecus, dont on parlera certainement au cours des exposés d'aujourd'hui et de demain, qui apparaît en quelque sorte intermédiaire entre Sahelanthropus, Orin et Australopithecus. Nouvelle étape, évidemment, qui appuie évidemment la thèse darwinienne un peu mieux. Et j'ai placé en dessous ce que l'on connaît des génomes, de la séquence de ces génomes et de leur place dans cette arbre évolutif, et l'idée que, évidemment, avec ces progrès tout à fait remarquables de la connaissance des génomes, on puisse arriver un jour ou l'autre à, en quelque sorte, dévoiler la nature humaine, puisqu'on connaît en principe toutes les molécules qui entrent dans la composition de l'être humain, son cerveau inclus. On est loin de l'avoir dévoilé, je l'ai mis entre guillemets, parce que, ça évidemment un de mes arguments, on est encore tout à fait loin de comprendre comment on passe du génome au phénotype cérébral. Ce cliché juste illustre ce point. Ces génomes de la levure, du ver, de la mouche, de la souris, de l'homme, on les connaît tous. Tous ces génomes ont été séquencés totalement. On connaît le nombre de gènes, et il y a bien entendu une relation légitime entre le nombre de gènes et le nombre de neurones chez, lorsqu'on passe de la levure, qui évidemment n'a pas de neurones, vers la mouche, à la souris. Bon, il y a un accroissement du nombre de neurones et il y a un accroissement du nombre de gènes. Mais vous voyez tout de suite le paradoxe central, qui reste d'ailleurs un paradoxe très vivant de la biologie moléculaire d'aujourd'hui, le même nombre de gènes chez la souris et l'homme. Par-dessus le marché, des séquences extrêmement voisines. Je n'ai pas dit identiques, fort heureusement, elles diffèrent. Il y a une base génétique qui est à l'origine des différences, entre autres, de taille du cerveau entre la souris et l'homme et de complexité, mais il y a un paradoxe que le généticien doit résoudre, car cette évolution, comme vous avez pu le voir sur le cliché précédent, est très récente, quelques millions d'années. Des ancêtres communs aux chimpanzés, je dirais, et à nos sapiens. Donc, en quelques millions d'années, une évolution génétique, que s'est-il passé ? Alors, je pense que la réflexion que nous devons avoir à ce sujet, et c'est là où la notion de variation est évidemment extrêmement importante, c'est que passer d'une structure linéaire, qui est celle du génome, celle des génomes d'une manière générale, à une structure tridimensionnelle qui est celle du cerveau de l'homme, il y a évidemment toute une série d'intermédiaires qu'il va falloir essayer de comprendre, et que c'est à ce niveau-là que l'évolution, je pense, doit être comprise. C'est-à-dire que l'évolution du cerveau, elle va se produire principalement et s'exprimer d'abord au niveau de la plaque neurale, de l'ébauche de ce cerveau que vous voyez ici pour la souris, et des frontières qui se trouvent présentes sur cette plaque neurale déjà et qui délimitent en bleu, par exemple, le cortex cérébral qui, comme vous le savez, se développe de manière fulgurante des mammifères primitifs à l'homme. Et évidemment, comme intermédiaire, il y a d'abord le produit des gènes et les interactions entre ces gènes. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas voir dans l'évolution du cerveau une évolution linéaire. J'ai dit que justement, il y avait une non-linéarité qui se produit, et non-linéarité simplement parce que ces produits des actions géniques vont interagir entre elles. J'ai mis ce cliché de ce qu'on appelle le protéome, l'interactome entre ces gènes, ici produits par ces éléments que vous trouvez sur génétique, sur par exemple ce chromosome 1 de l'homme. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir une interaction entre ces actions géniques qui va créer un réseau combinatoire et qu'il va y avoir des non-linéarités qui vont se produire et que de modestes changements, et ça, c'est, nous l'avions démontré avec Michel Kersberg il y a bien des années déjà, quelques changements comme simplement des duplications géniques qui vont accroître le rapport relatif de certains de ces facteurs de transcription qui vont conduire à la régulation de l'expression des gènes qui vont conduire au développement du cerveau, eh bien, ces non-linéarités vont peut-être participer à apporter une réponse à ce paradoxe de la non-linéarité évolutive entre l'évolution génétique et la complexité du cerveau. Et par exemple, donner une explication de ce processus qui est reconnu maintenant et central, de l'évolution non seulement en masse du cerveau, mais des relations entre les aires corticales et en particulier ce cortex préfrontal qui, quand même, ici, il suffit de nous regarder les uns les autres dans les yeux, nous distingue quand même du singe. Donc voilà, peut-être une réflexion à avoir, des variations génétiques certes modestes qui vont conduire à des changements morphologiques importants. J'illustre une voie de recherche, il y en a d'autres, et je dois dire que pour l'instant, nous sommes encore très loin de comprendre ce processus, et puisque nous avons la chance d'avoir des jeunes ici, c'est voilà un programme d'avenir qui est évidemment extrêmement important, comprendre les origines du cerveau de l'homme. Et je dois dire qu'un des aspects évidemment collatéraux de cette réflexion, c'est il y a non seulement une variabilité comme moteur, source de l'évolution génétique, mais aussi, évidemment, explication causale de maladies qui peuvent, par exemple, atteindre le cerveau. Et vous avez ici juste un exemple du nombre de la variation du nombre de copies géniques qui est extrêmement fréquente dans le génome humain d'un individu à l'autre et qui peut conduire à l'explication de maladies, j'y reviendrai dans une seconde, comme la schizophrénie. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la variabilité collectionnelle. Parce qu'on a tendance à placer Darwin uniquement au niveau de l'évolution génétique. Mais je voudrais justement, dans ces démarches, cette démarche introductive, vous dire qu'il puisse y avoir de la variabilité ailleurs que simplement au niveau du génome. Et cette variabilité, où elle va apparaître dans le cas du cerveau ? Eh bien, simplement au cours du développement. Le cerveau du nouveau-né, on l'oublie, a une masse qui est 5 fois plus faible que celle du cerveau de l'adulte. Un accroissement dramatique de la masse du cerveau se produit après la naissance et plus de 50% des connexions du cerveau se développent chez l'enfant à une vitesse phénoménale, puisque 500 000 milliards de connexions vont s'établir pendant les 15 années du développement connexionnel du cerveau de l'homme. Donc nous sommes là en présence d'un processus tout à fait remarquable qui va entraîner, c'est un des conséquences de la manière dont nous pouvons voir cette évolution, et j'emploie le terme d'une manière délibérée, postnatale, et j'introduis le terme épigénétique, puisque, évidemment, ce ne sont pas les gènes qui vont varier, mais la manière dont les connexions du cerveau vont s'établir les unes avec les autres. Et le schéma que nous avions proposé il y a bien des années avec Antoine Danchin est qu'on peut concevoir qu'il y a tout un emboîtement de mise en place de ces connexions avec des étapes successives d'exubérance et de variabilité maximale qui donne lieu ensuite à une sélection par l'activité spontanée ou en relation avec l'environnement, évoquée par l'environnement, qui constitue tout autant de ce que l'on peut appeler soit des périodes critiques, soit surtout, je préfère le terme, des périodes sensibles, qui sont évidemment extrêmement importantes dans le cas de l'éducation de l'enfant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc une variabilité épigénétique qui va conduire à une sélection et aussi, de ce fait, une variation dans le produit final de cette sélection. Et là, j'ai juste voulu illustrer ce point avec un exemple de Lichtman, où il a comparé l'innervation de deux muscles, ici c'est chez le rat, et deux muscles qui sont symétriques. Bon, nous avons beaucoup de muscles symétriques, hein, les biceps, les triceps. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que l'innervation de ces muscles symétriques est symétrique ? Le produit final, oui, l'est, puisque finalement nous pouvons faire fonctionner nos deux bras de la même manière, symétriquement. Mais quand on regarde en détail chaque connexion, vous avez ici le schéma de cette analyse, c'est tout récent, ça vient d'être publié, bien vous voyez qu'il y a une étonnante variabilité entre la droite et la gauche chez un même individu. Cela avait été déjà prévu par Cyrus et Vintal il y a bien des années avec des vrais jumeaux. Et ce qu'il avait pu constater, c'est que des cellules identifiables comme des neurones moteurs que vous voyez ici, si on compare leur arborisation dendritique entre la droite et la gauche et d'un individu à l'autre, vous voyez une variabilité connexionnelle. Et le grand paradoxe, vous voyez, j'en ai souligné un tout à l'heure, c'est la relation entre le génome et le phénotype cérébral. Un autre paradoxe qui est très vivant aujourd'hui, c'est de comprendre comment, en dépit de cette variabilité, les fonctions sont pratiquement les mêmes. C'est le théorème que nous avions proposé avec Philippe Courrèges et Antoine Danchin, et montrer que dans un schéma darwinien, en quelque sorte, de l'évolution connexionnelle, le même message afférent peut stabiliser des distributions de connexions différentes, mais néanmoins présenter les mêmes rapports entrée-sortie. C'est-à-dire avoir une universalité fonctionnelle en dépit d'une variabilité connexionnelle. Ça reste un des très grands projets de la neuroscience contemporaine que d'essayer de comprendre cette variabilité, cette constance de la fonction, mais aussi éventuellement des différences qui se superposent aux différences génétiques et qui constituent ce qui caractérise l'individu. Là encore, une référence à la pathologie, et c'est là où Darwin nous est utile, parce qu'il nous enseigne un nouveau mode de compréhension de la maladie, que certaines maladies peuvent être des maladies de ce développement épigénétique, que par exemple cette élimination synaptique dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette phase d'exubérance et d'élimination qui conduit à cette sélection et stabilisation de distribution connexionnelle que je vais montrer, puisse être affectée par des gènes. Et il semble que c'est la nouvelle conception que l'on a de la schizophrénie et que c'est encore une théorie, une hypothèse, mais qu'il y existe une réduction de la connectivité fonctionnelle et structurale qui se produit au cours de la schizophrénie. Et justement, cette élimination synaptique, cette sélection naturelle, épigénétique, puisse être perturbée au cours du développement de la schizophrénie. Donc, voilà une manière de voir les choses qui, évidemment, est d'importance non seulement sur le plan de la pathologie, mais aussi, évidemment, sur le plan de la compréhension de, je dirais, l'humanisation, puisque là, il s'agit, évidemment, d'une évolution totalement épigénétique. C'est le fait que nous avons génétiquement, chez l'homme, 15 ans d'évolution connexionnelle après la naissance, qui est considérable par rapport à toutes les autres espèces que vous voyez ici présentées, c'est un travail de Jean-Pierre Bourgeois, mais que cette période est l'occasion non seulement d'acquérir des indices de l'environnement physique, mais social et culturel également, et de les produire. Donc d'avoir un échange qui se produit entre le nouveau-né et son environnement et le monde des adultes, et qu'il y ait de cette manière un aspect essentiel de ce qui caractérise l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que l'homme qui a une culture, mais je veux dire qu'elle se développe de manière prodigieuse chez l'homme. C'est précisément du fait de l'expérience, de l'existence de cette période d'évolution postnatale qui dure un temps qui, pour les évolutionnistes, est tout à fait étonnant. Parce que l'Homo sapiens, lorsqu'il est apparu en Afrique, devait vivre, je ne sais pas, on me corrigera, je ne suis pas spécialiste, une trentaine d'années. C'est un ordre de grandeur. Bon, il y avait peut-être quelques individus qui vivaient plus longtemps. Mais on imagine que la sélection naturelle a conduit, sur le plan génétique, à la sélection d'une espèce qui passe la moitié de sa vie à apprendre, 15 ans sur 30. Donc on est dans une situation vraiment exceptionnelle et intéressante qui, justement, permet, et c'est ça mon point de vue, de passer de l'hominisation à l'humanisation. Et là encore, c'est grâce à la variation et à l'existence d'une multiplicité des périodes sensibles qui contribueront justement à ces empreintes de l'environnement culturel dans le cerveau, comme l'exemple de l'écriture qui sera repris par Stanislas Dehaene ce matin, et cette appropriation épigénétique de circuits neuronaux qui vont être stockés dans la mémoire à long terme de l'individu, permettre une empreinte culturelle qui sera la source de la création artistique, éthique et scientifique. Mais à cette variabilité collectionnelle va s'ajouter une autre variabilité. Cette créativité que j'ai mentionnée, elle va être issue d'une variabilité autre qui va se superposer à la variabilité connexionnelle, qui est la variabilité de l'activité cérébrale. Et là, on oublie souvent que le cerveau est constamment actif. Même si quelques-uns d'entre vous sont déjà en train de dormir, eh bien, si on plaçait un appareil d'enregistrement sur leur cerveau, on se rendrait compte que même en dormant, il est actif. Et nous avons en fait des oscillateurs neuronaux qui sont présents dans la membrane de nos neurones en permanence. Et ces oscillateurs sont constamment en train de fonctionner. C'est-à-dire que notre cerveau est constamment actif. Et on a déchiffré les mécanismes moléculaires de ces oscillateurs. Et voilà, et le résultat qui est ici, par exemple, l'activité spontanée de la moelle épinière de la lamproie, qui était enregistrée par Sten Grillner. Et vous voyez aussi cette variabilité qui apparaît dans l'activité électrique spontanée de ces neurones de la moelle épinière. Vous la voyez aussi au cours du développement. Et c'est un point qui est extrêmement central dans la réflexion, c'est que cette activité spontanée apparaît très tôt au cours du développement embryonnaire et va participer à ces processus d'épigénèse déjà avant même que le nouveau-né soit exposé à l'environnement dans le sein de sa mère et permettre cette mise en relation des divers composants du système nerveux du fœtus et contribuer à une sorte de mise en place, en quelque sorte, coordonnée du cerveau de l'homme. Donc, une variabilité de l'activité électrique spontanée qui va s'ajouter à la variabilité connexionnelle, qui elle-même va s'ajouter à la variabilité génétique. Et ici, simplement une image de cette activité spontanée cérébrale chez le nouveau-né, comme chez l'adulte. Et évidemment, on se pose la question de savoir à quoi elle sert. Bon, je ne vais pas débattre très longuement de cela. Elle est présente et vous avez tout de suite imaginé qu'elle va servir à quelque chose. Eh bien, ce à quoi elle sert, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de m'écouter, vous ne parlez pas, hein, fort heureusement. Vous m'écoutez, je ne sais pas, mais votre cerveau est attentif et vous êtes en train de vous dire dans votre tête qu'est-ce qu'il nous raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que, etc., afin de produire des raisonnements, des mises à l'épreuve dans votre cerveau parce que vous produisez des anticipations. Et ça, c'est une activité spontanée, constante, dans votre encéphale. Et voilà un schéma qui illustre que, avec Stanislas Dehaene, il y a bien des années, lorsqu'il était jeune étudiant, maintenant il est devenu un maître et professeur au Collège de France dans cette maison, à l'époque, eh bien, on s'était préoccupé justement de cette activité spontanée de son rôle et de la manière dont on pouvait concevoir un apprentissage par variation-sélection d'un état d'activité qui va se produire dans des réseaux ici. Vous voyez, on va passer d'un réseau qui permet de faire un choix d'une carte particulière, je n'entre pas dans le détail, ici un autre réseau, ici un autre, et voilà, on va passer d'un état d'activité à l'autre, et par un système de sélection, ici qu'on a choisi par récompense, des systèmes dopaminergiques pour les spécialistes, mais simplement pour voir que simplement l'interaction de l'organisme avec le monde extérieur va sélectionner certaines de ces représentations et conduire à une action sur le vent. Donc voilà une hypothèse sur le rôle possible de cette activité spontanée, de ces variations de l'activité de notre cerveau qui est en quelque sorte source de nos actions, de nos réflexions et aussi de notre création. Parce que la créativité du cerveau de l'homme, c'est quoi ? C'est de la variabilité de l'activité spontanée de notre cerveau. Donc, on peut souligner ici l'importance, une fois de plus, de la notion de variabilité dans l'évolution de notre cerveau et éventuellement des échanges que nous pouvons avoir entre nous. Et vous voyez qu'il y a non seulement une variabilité créatrice dans l'activité projective de notre cerveau, mais aussi dans les échanges et la mise en épreuve que nous aurons au niveau de la société et conduire en quelque sorte à la poursuite d'une évolution qui ne sera plus simplement interne à nos cerveaux d'individus, mais qui va se propager au niveau des sociétés humaines. Et là, je vais conclure, simplement pour souligner cette importance des niveaux de variation qui se trouvent emboîtés dans le cerveau de l'homme. J'ai parlé de l'évolution des espèces, de l'évolution génétique, avec des échelles de temps de millions d'années. J'aurais pu mettre Ardipithecus maintenant, mais enfin bon, on en parlera certainement dans la matinée. De l'Homo erectus à l'Homo sapiens, par exemple. Cette évolution ontogénétique, avec cette variabilité connexionnelle épigénétique, qui se produit essentiellement après la naissance, poursuit même chez l'adulte. Et puis, alors, chez l'adulte, évidemment, se poursuit peut-être encore cette épigénèse connexionnelle, un petit peu, mais évidemment avec une ampleur moindre qu'au cours des étapes primordiales du développement de l'enfant. Une activité spontanée de nos réseaux de neurones qui contribue à la dynamique de la pensée, bien entendu, qui elle-même se poursuit par une dynamique au niveau social et culturel avec, évidemment, la mise en place, et ça, c'est évidemment très important, de mémoires extracérébrales que sont les œuvres d'art, que sont les livres, bien entendu, et maintenant les mémoires sur Internet, électroniques, qui sont très, très fugaces. Hein, n'oublions pas que la durée d'une mémoire électronique, et ça c'est une chose qui n'est pas courante dans l'esprit du public, c'est quelques années, 5-6 ans, 10 ans peut-être, alors que nos mémoires cérébrales, fort heureusement, sont quand même un peu plus longues. Et quant aux mémoires écrites, elles le sont encore beaucoup plus, puisqu'on a encore des papyrus de plusieurs milliers d'années. Donc, ces mémoires extracérébrales, évidemment, ont une importance critique, puisqu'elles pourront être à nouveau internalisées au cours du développement de l'enfant et de l'éducation. Je trouve qu'on a la chance d'avoir ici avec nous des élèves des classes de lycée qui sont dans une phase d'acquisition considérable et qui vont donc utiliser tous ces savoirs pour l'exprimer au cours des années à venir, fort heureusement. Donc, pour conclure, Je crois qu'il faut abandonner le modèle entrée-sortie du cerveau et le schéma instructif au profit d'un schéma darwinien, généralisé, je dirais, par variation-sélection. Donc, oublions cette vision instructive au bénéfice d'une vision, je dirais, projective du fonctionnement cérébral et considérons que nous avons, en quelque sorte, ces évolutions darwiniennes emboîtées qui se poursuivent et, au fond, qui constituent une dynamique tout à fait exceptionnelle et remarquable de l'humanisation, c'est justement d'avoir cette ouverture évolutive vers l'avenir et, je l'espère, en faisant vivre l'esprit de l'encyclopédie et des Lumières. Et je vois ici Diderot accordé de Darwin, eh bien, réfléchissez-y et peut-être que pour nos jeunes élèves, faites un écrit sur Diderot, Darwin et l'évolution au XXIe siècle. Voilà, je vous remercie.